Bonjour Mylène, donc tu tiens la chaîne YouTube Welcome to the Primetime Beach. Et pour commencer, est-ce que tu peux présenter ta chaîne YouTube et les formats que tu y proposes?
Salut, et ben oui, avec plaisir. Alors, ma chaîne, c'est une chaîne toute récente que j'ai créée, comme beaucoup de monde, durant le confinement. Du coup, elle a tout juste un an. Elle a eu un an le 1er mai. Et c'est une chaîne qui décortique le cinéma de genre. Mais pas seulement, j'aime aussi décortiquer les nanars musicaux, parce que pourquoi pas. Et j'aime beaucoup aussi m'intéresser aux jeux de société qui sont adaptés d'après des licences d'horreur. Et justement, voir si l'adaptation est viable par rapport au film. Et souvent, quand je reviens sur les jeux de société, j'aime bien faire un petit encart en fait sur le film, le contexte, voilà, et faire des liens avec l'œuvre qui a inspiré le jeu.
Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le cinéma de genre?
Je dirais, déjà, c'est un genre qui me sert beaucoup de catharsis. C'est vraiment mon genre cinématographique préféré, parce que déjà, il est très vaste. On dit souvent que l'horreur, c'est hyper réducteur, mais pour moi, l'horreur, c'est un spectre très large. C'est-à-dire que dans les œuvres récentes, on a pu le voir, hein, l'horreur, ça peut être de l'horreur teintée de drame, de l'horreur teintée de thriller, ou aussi des romances. Hein, il y a des choses un peu improbables qui sortent. Il y a notamment, là, je pense au film Relique, qui est un film d'horreur, mais qui est aussi un drame familial. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'horreur, c'est que même si on va étiqueter un film comme un film d'horreur, ça peut être quelque chose de beaucoup plus vaste. Et il y a aussi quelque chose de très primitif dans l'horreur. Ça touche à nos peurs primaires, mais pas que ça, en fait. Parce que c'est un genre qui est censé nous mettre un peu mal à l'aise, si j'ose dire. Et du coup, voilà, moi, j'ai l'impression que ça touche à mes peurs et mes ressentis très primitifs, et j'aime beaucoup ça. Et aussi, il y a une partie très ludique dans l'horreur, notamment dans le slasher, qui est l'un de mes genres favoris. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup faire des vidéos sur les slashers sur ma chaîne. Et par exemple, le slasher, je trouve que c'est un genre très, très ludique. C'est-à-dire qu'on va... On va se mettre dans l'enquête, on va essayer de découvrir qui est le tueur, surtout quand il y a un voodoo-nite. Et voilà, il y a un côté très, très participatif dans l'horreur que j'aime beaucoup.
Alors, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais d'où t'es venue l'envie de partager ta passion?
Ça a commencé, je dirais, vers 2016-2017, parce que j'avais déjà un blog. J'éditais pendant longtemps, j'avais déjà commencé d'écrire pour des blogs qui n'étaient pas des blogs à moi. Mais voilà, je me sentais pas encore de lancer mon propre format. Et j'aime beaucoup partager ma passion, je suis quelqu'un de très pédagogue, j'adore faire voir des films à mes amis, leur expliquer le contexte. Voilà, j'adore partager ma passion. Et j'ai commencé avec le format blog, qui était le format qui se prêtait plus à ce que je me sentais de faire sur le moment. Et donc, avec mon blog qui a le même nom que ma chaîne, donc Welcome to Primetime Beach, j'ai commencé par faire en fait des reviews de saga, donc avec le contexte, avec par exemple Massacre à la tronçonneuse et son inspiration de Ed Gein, tout ça. Et ensuite, j'avais envie de passer au format vidéo, mais je me sentais pas de le faire. Et puis finalement, j'ai passé le cap grâce à des amis qui étaient eux-mêmes vidéastes. Et qui m'ont dit, allez, il s'agit de se lancer. Parce que même si j'aime beaucoup l'écriture, et je trouve que c'est un très bon moyen de partager, de faire revivre l'œuvre, de la faire connaître, de l'analyser, de l'étudier, le format vidéo, j'aime beaucoup parce que ça me permet d'analyser les images, chose que je pouvais pas autant faire dans le format écrit. Et donc, du coup, j'ai décidé de partager ma curiosité et toutes ces choses que j'aime décortiquer dans les œuvres, que ça soit autant pour le fouinage dans les recherches, autant par des analyses personnelles. Je me suis dit, autant le partager et pas le garder que pour moi. Et ce que je faisais avec mes amis et mes proches, le faire sur un rayon plus large avec ma chaîne.
Tu viens de nous parler aussi un petit peu plus tôt de musique, en parlant de nanars musicaux, il me semble. Je voulais savoir quels sont tes médias autres que le film d'horreur, centré du coup sur l'horreur, genre BD et livres. Quels sont justement tes médias préférés?
Je pense, et ça se ressent dans ma chaîne, parce que j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, je pense que c'est les vinyles. Je suis très fan de vinyles, j'écoute beaucoup de musique. J'ai commencé à avoir des vinyles au collège, c'était une passion qui a commencé très tôt, parce que même sans pouvoir les écouter, j'en ai eu par le biais de mes parents, et donc j'ai commencé à les collectionner. Et du coup, mes deux passions se rejoignent parce que je suis à la fois fan de musique et fan de BO. Donc, du coup, ben, ma passion pour le cinéma se rejoint avec, avec ma passion pour la musique. Et voilà, je suis une grosse collectionneuse de vinyles, de pièces un peu rares. Justement, les nanars musicaux que j'ai analysés sur ma chaîne, j'ai craqué pour les vinyles, même si c'est, voilà... Par exemple, j'ai fait une analyse de parking, même si la BO, elle est compliquée. J'avais envie de la voir pour avoir un peu cette pièce improbable dans ma collection. Et sinon, après, je dirais que j'aime beaucoup les livres. Je suis une grosse lectrice, j'ai commencé à lire très tôt. Et tout de suite de l'horreur, j'ai commencé par lire bon, bah, voilà, des chairs de poule, toute cette littérature horrifique pour enfants. Et ensuite, je suis très vite passée à Stephen King et ça ne m'a plus jamais quittée.
Et en parlant du coup de musique, est-ce que tu as une idée de... Enfin, est-ce que tu as un exemple, par exemple, de bande originale qui t'a profondément marqué dans le cinéma d'horreur ?
Dans le cinéma d'horreur, là, comme ça, de tête, je dirais peut-être Candyman, qui est une BO de Philip Glass, qui est très loin, en fait, des archétypes des BO d'horreur, par exemple, comme on peut voir avec Carpenter, ou des choses très... très métal ou du style de Goblins que j'aime beaucoup avec donc les BO italiennes de Suspiria ou encore de Profondo Rosso. Là, Candyman, c'est une musique très onirique et qui accompagne vraiment très bien l'œuvre. Et c'est vrai que quand je vois le film, c'est vraiment une BO qui me donne des frissons. Et je trouve que vraiment, limite, elle fait rentrer en transe cette BO et je la trouve sublime.
D'accord, mais depuis tout à l'heure, on parle de nanars musicaux. Du coup, je suppose que tu fais référence justement un petit peu, tu fais la passerelle avec les nanars en film, mais au niveau de la musique. Mais pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un nanar musical ?
Alors, déjà, un nanar de base, c'est un film qui n'avait pas du tout à vocation d'être mauvais, hein, ou d'être kitsch, ou d'être cheap. Et qui, par la force des choses, que ce soit la production ou alors le manque de budget ou alors voilà le résultat final, va devenir une œuvre tellement, je ne sais pas comment on pourrait dire, tellement ratée, tellement mauvaise, que ça va faire un espèce de pot pourri raté, mais qui va limite devenir charmant en fait. Parce que voilà, faut faire la différence entre le navet et le nanar, c'est-à-dire qu'un navet souvent, ça a déjà vocation à être mauvais. C'est un petit budget, c'est des films qui sont juste mauvais, pas regardables, pas appréciables. Un nanar, on va avoir tendance, enfin moi c'est mon avis très personnel, à lui trouver du charme alors qu'il est mauvais. C'est-à-dire que par exemple dans mes vidéos, je me suis arrêtée, donc mon premier nanar musical c'était Parking, qui est une œuvre donc de Jacques Demy que j'aime énormément. Et là, pour le coup, Jacques Demy, à aucun moment, il a voulu rater son œuvre. C'était vraiment une œuvre qu'il a voulu faire avec le plus grand des sérieux. Et la production a fait qu'il y a eu pas mal de couacs. Le résultat final ne fonctionnait pas du tout. Les chansons étaient chantées par Francis Huster, qui n'est pas un chanteur. Donc, ça se ressent durant tout le film. Et ça fait mal. Clairement, ça fait mal. Mais un nanar, je pense que c'est une œuvre que, lorsque tu la visionnes trois fois, tu finis par l'apprécier. C'est une œuvre qui se regarde entre amis. Et donc, bah, le nanar musical, on rajoute juste un peu de musique kitsch et ça fait le taf. Donc là, par exemple, voilà, il y a Parking, mais il y a aussi Rock Alien, qui est ma dernière vidéo en nanar musical, qui là a une BO beaucoup plus écoutable et beaucoup plus sympathique, avec notamment When the Rain Begins to Fall de Jermaine Jackson et Piazzadora. Et là, pour le coup, c'est un très bon exemple. C'est un film qui a été fait pour mettre en avant son actrice principale. Et ça n'avait pas du tout vocation d'être un échec commercial, mais ça n'a pas marché. Et finalement, c'est devenu un nanar improbable qui ressemble à un mix de clip MTV des années 80, quoi.
Ok. Et le cinéma d'horreur, il souffre de pas mal de préjugés, je trouve, en ce moment. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du cinéma d'horreur actuel ?
Moi, je pense que là, on arrive, comment dire, il y a beaucoup de films qui arrivent vraiment à renouveler le genre, notamment avec Ari Aster ou encore avec les œuvres comme des séries comme Haunting of Hill House, qui sont des œuvres qui vraiment réussissent à réinventer tout en s'inspirant voilà, de l'horreur passée. C'est vrai que l'horreur a mauvaise réputation, mais je pense qu'elle l'a toujours eu, en fait, parce qu'on a tendance à cataloguer ça comme un genre trop facile. Même moi, je vois avec mon entourage, souvent on me dit « Ah, bah, ça fait peur, j'ai pas envie de regarder ». Et du coup, c'est vrai que la peur fait que beaucoup de gens ont des préjugés sur l'horreur en général et s'arrêtent là, ils ne veulent pas donner la chance aux œuvres qui sont bien plus complexes que ça. Aujourd'hui, ça commence un petit peu à changer parce que on a un peu de l'horreur intellectuelle qui a commencé à se mettre en place, alors avec un terme que moi j'aime pas du tout, l'élévité d'horreur, qui du coup redonne un petit peu un nouveau souffle à l'horreur. Moi, c'est vrai que c'est un thème que j'emploie pas du tout parce que ouais, c'est un thème que j'apprécie pas. Et mais voilà, avec les œuvres de Ari Aster, par exemple, c'est vrai que moi, ça faisait un moment que je n'avais pas eu d'énormes coups de cœur sur une œuvre contemporaine. Et là, quand je suis rentrée de ma séance de ciné, je me suis pris littéralement une claque. Et je me suis dit que ce soit en termes de scénario, de jeu d'acteur, de BO, d'esthétisme, là, on tenait quelque chose et que vraiment, voilà, l'horreur avait encore des choses à dire. Et on a notamment aussi des choses très intéressantes qui arrivent, puisqu'il y a une nouvelle génération de réalisatrices d'horreur qui arrivent avec des propositions qui sont très très bonnes. Ben là, encore une fois, Relique. Mais voilà, on a aussi des propositions comme Lucky, qui est un slasher qui, même s'il n'est pas parfait, nous donne envie de voir ce que fera la réalisatrice par la suite. Et voilà, il y a plein de propositions comme ça qui tentent de créer un nouvel esthétisme de l'horreur. Et moi, j'ai vraiment foi en cette nouvelle proposition contemporaine de l'horreur. J'ai beaucoup d'espoir.
D'accord. Mais selon toi, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans ce genre à l'heure actuelle ?
Je dirais que ce qui m'énerve le plus, c'est vraiment peut-être l'horreur trop facile. C'est vraiment l'horreur qui répète les mêmes clichés, les mêmes jumpscares, les mêmes tropes qui sont répétées inlassablement et qui n'ont pas forcément d'intérêt. Après, énervé, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que, par exemple, je me retrouve moins dans l'horreur mainstream. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je pense que, quelque part, l'horreur mainstream fait aussi un peu de mal à l'horreur en général parce que, du coup, c'est cette horreur très mainstream qui va, en fait, diffuser une fausse image de l'horreur. Avec du coup des peurs très faciles, un scénario pas forcément toujours abouti et de l'horreur qui reste de l'horreur pure, en fait, très pop-corn. Alors moi, c'est de l'horreur que j'apprécie parfois, hein. Mais c'est vrai que du coup, cette horreur mainstream, elle empêche quelque part aux œuvres plus intimes de voir le jour ou d'être mieux mises en avant, on va dire.
Alors, en plus, tu parlais d'Ari Aster tout à l'heure avec notamment, enfin du coup, Hérédité et Midsommar. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord parce que Hérédité, je me souviens pas qu'il y ait énormément, même si, enfin, je me souviens qu'il y ait énormément de jumpscares en plus. Et pourtant, moi, c'est un film qui m'a bouleversé tellement il m'a terrifié, en fait. C'est justement dans l'ambiance et c'est le fait de réussir à terrifier les gens intelligemment sans avoir à les surprendre, en fait, et de, du coup, créer une peur beaucoup plus viscérale, en fait. C'est ce qu'a réussi à faire Ari Aster. Et moi aussi, ça m'a redonné espoir dans ce genre, en fait.
C'est ça, c'est totalement ça. D'ailleurs, il y avait un site qui avait répertorié, je crois, le peu de jumpscares de Hérédité, et c'était vraiment minime, quoi. Et c'est vrai que ça fait du bien, enfin, c'est très bizarre, ça fait très mal de dire ça, mais ça fait du bien d'avoir peur. Moi, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, et du coup, même si, voilà, je pense que l'horreur, il en faut pour tout le monde, et du coup, c'est très bien aussi qu'il y ait des œuvres plus, on va dire, pas plus clichés, mais plus mainstream. Mais c'est vrai que moi, c'était de l'horreur que je regardais un peu. Voilà, je regarde les films, je les oublie, ça me fait pas peur, j'ai l'habitude, je sais ce qui va se passer, je commence le film au bout de 5 minutes, tu sais à peu près le dénouement. Donc c'est vrai que c'est une horreur que je consomme un peu moins.
D'accord, et du coup on va te poser maintenant des questions un petit peu plus personnelles sur ton parcours de l'horreur. Est-ce que tu peux nous raconter la toute première fois où tu as posé tes yeux sur un film d'horreur ?
Oui, alors là, je me souviens plus exactement, j'étais quand même assez jeune, et en fait, mes parents avaient une énorme collection de VHS, et bon, bah, comme pour beaucoup, je fantasmais en fait sur les jaquettes, j'avais envie de découvrir tous ces films, je faisais même des cauchemars juste avec les jaquettes, notamment celle du téléfilm de ça, et je pense qu'à force de saouler mes parents, ma mère a cédé, Et elle m'a dit bon bah pas de souci, tu peux regarder un film d'horreur, tu le choisis. Et elle m'a laissé le choix entre Ouija et entre La Mouche. Et en fait, j'avais choisi Ouija. Et puis finalement, une fois que la cassette a commencé, j'ai un peu paniqué. Et finalement, j'ai choisi La Mouche, donc de Cronenberg. Et voilà, c'était un super début pour commencer l'horreur. Et je me souviens de ce visionnage. Je me souviens des scènes gore où je m'étais dit, ah, c'est vraiment, voilà. Je suis pas sûre que j'ai eu peur. Mais voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup d'attachement à La Mouche parce que c'est mon premier film d'horreur.
Je vais me la jouer un peu Scream avec la prochaine question, mais quel est ton film d'horreur préféré ?
Ah, c'est trop difficile. Je serais très, je mentirais si je disais que c'était pas Scream. Donc ce serait. Du coup, cette question est très bien tombée. Non, je pense qu'effectivement le film que j'aime d'amour, c'est Scream. Je rabats tout le monde, je rabats les oreilles de tout le monde avec ce film. Déjà parce que c'est un film que je revois tous les ans, que je revois au moins plusieurs fois par an. Je le trouve très bon, autant pour les néophytes du genre que pour les férus du genre. Je trouve que c'est un film intelligent. J'aime beaucoup Wes Craven. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un film qui a réussi à relancer le genre du slasher en lançant le néo-slasher. Et d'ailleurs, ça m'attriste beaucoup parce que souvent, Scream, c'est un film qui est, on va dire, tout le temps dénigré parce que justement, on le rapproche de Scary Movie, on dit que c'est une parodie. J'entends beaucoup de gens dire, ah, mais Scream, c'est drôle, ça ne fait pas peur, c'est un peu superficiel. Et moi, je suis pas trop d'accord parce que je trouve que Wes Craven et Kevin Williamson, avec ce film, ils arrivent vraiment à faire quelque chose de très intelligent. À avoir un recul sur tout un genre et sur justement tout ce qui ne va pas forcément dans le genre du slasher, en fait, dans le slasher de l'âge d'or, quoi. Et ils ont vraiment réussi à réinventer surtout les personnages féminins du slasher. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un film qui est très très bon.
D'accord, bah merci beaucoup pour cette anecdote. Toi, c'était quoi le premier film d'horreur que tu as vu, Léopold ?
Alors moi, c'était Shrooms, je crois.
Oula.
Ouais, c'était un film où ils allaient chercher des champignons hallucinogènes dans la forêt et il y en a qui devenaient fous et donc ils s'entretuaient.
Oh la vache. Ouais. Et ton film d'horreur préféré du coup ?
Hérédité d'Ari Aster.
D'accord,
ouais,
tout à fait.
Carrément. Et toi ?
Le tout premier film d'horreur que j'ai vu, je sais pas si on peut considérer ça comme de l'horreur parce que c'est vraiment un nanar plus qu'autre chose, c'est Python.
Ouh.
C'est un gros python de 72 km et de plusieurs tonnes qui vient manger des gens. Et je me souviens de la scène où, en fait, je crois que le python, au bout de sa queue, avait un truc tranchant, avait décapité des gens, il est planté et tout ça. Ça m'avait bien marqué. Mais sinon, mon film d'horreur préféré. C'est de la même trilogie.
C'est Evil Dead, non ?
C'est ça, c'est Evil Dead. Mais pas le troisième. Ah. Le troisième est un peu en dessous par rapport aux autres. Genre, c'est pas forcément de l'horreur selon moi, mais les deux premiers ont cet aspect, plus pour le deuxième, plus comédie. Mais le tout premier a vraiment cet aspect horreur un peu cheap, DIY, que tu fais avec tes potes et que tu retrouves aussi un peu dans le deuxième avec par exemple l'espèce d'œil là. Qui explose, on dirait vraiment une balle de ping-pong quand elle vole à l'écran.
Et en plus, t'as aimé le remake aussi, non ?
J'ai bien aimé le remake
de Fred Alvarez. Mylène, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, du remake, parce que je sais qu'il est très controversé, il y a peu de gens qui l'aient apprécié. Je sais pas si tu l'as vu, le remake de Evil Dead.
Moi, j'ai beaucoup aimé le remake, je l'ai trouvé très très bon. Et j'ai trouvé que. Bah, je pense que beaucoup de gens n'ont pas aimé parce qu'il n'y avait pas ce côté un peu fou des Evil Dead originaux. Et moi, j'ai trouvé que c'était très bon, c'était une belle relecture. Des premiers, quoi. Et non, j'ai beaucoup apprécié.
Et pour la petite anecdote, moi, c'est le deuxième vrai film d'horreur que j'ai regardé. C'est le remake de Evil Dead avec mes frères. Ils ont trouvé ça sur YouTube et ils ont dit, viens, on va regarder ça. Moi, je devais avoir, quoi, 12 ans. Je me suis dit, allez, qu'est-ce qui peut se passer ? La scène, horrible. Là, dans la cave avec le cutter, là, et horrible. La lampe qui part en deux.
Horrible.
Ça, il y a de quoi avoir un sacré trauma. Mais c'est marrant que tu dises que tu parles d'Evil Dead parce que je les ai vus il n'y a pas très très longtemps. Parce que le 1 et le 2, ils ont eu une restauration 4K assez récente. Et non, c'est toujours aussi jouissif. C'est des films qui sont très très bons. Voilà, le 1, il y a quelques petits trucs qui me gênent. Mais je trouve que malgré le budget et tout, c'est des films qui sont spectaculaires.
Tout à fait, tout à fait.
Et j'ai une petite question pour Mylène. C'est quel est ton sous-genre de l'horreur de prédilection? Parce qu'il y en a plein. Home Invasion, Slasher, Splatter.
Franchement, celui que je maîtrise le mieux et celui que je préfère et celui que je consomme le plus, c'est vraiment le slasher. Hein. J'en consomme énormément et c'est vraiment... Et en fait, il y a un côté très, très facile à consommer du slasher. C'est un peu comme quand tu vas en pizzeria et que tu choisis toujours la pizza 4 fromages. Et ben, c'est exactement pareil. Quoi. Tu sais ce que tu vas voir. Et même si des fois, tu peux toujours être surpris par le genre. Hein, c'est pas non plus... Mais voilà, tu sais le canevas, tu sais ce qui va se passer. C'est très ludique, c'est sympa. C'est pas prise de tête, même s'il y a des très bonnes surprises. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le slasher.
À tes yeux, quel est le pire film d'horreur que tu aies vu?
C'est compliqué, là. C'est très compliqué. Je suis pas sûre d'avoir... c'est peut-être pas le pire, mais c'est celui que j'ai en tête. Nightmare Island, que j'ai vu au cinéma. Et j'ai rien réussi à récupérer ce pauvre film. J'ai souffert durant toute la séance. Et c'était pas du tout une belle découverte.
Léo, c'est quoi ton pire film d'horreur?
Moi, mon pire film d'horreur?
Ouais.
Alors, je crois que ce sera Ouija.
Ah ouais?
Je crois que ça doit être un remake ou un truc comme ça. Mais je me suis... Après,
ouais, il est très mauvais.
Ouais, voilà, ouais, bah, ça doit... on parle du même. Alors, parce que je crois qu'il y en avait plusieurs, mais il y en a un que j'ai regardé qui s'appelle... Ah, il y a aussi Open House, que j'ai regardé sur Netflix et qui est aussi une sombre... Ah ouais. Une sombre bouse. Mais sinon, ouais, Ouija, c'était très, très ennuyant, très ennuyeux. Et puis voilà, ça m'a pas fait peur du tout. Et même, ça m'a pas stimulé. Et puis le dénouement et tout. Ouais. Et puis que des screamers avec des effets vraiment tape à l'œil. Enfin, vraiment très, très mauvais.
Moi, le pire.
Mais par contre, le 2 est très bon. Enfin, il est meilleur, le 2. Je sais pas si tu l'as vu. C'est Mike Flanagan qui l'a fait. Ah. Et le 2 est vraiment pas mal.
Ah, j'ai pas eu le courage de me dire que j'allais regarder la suite, je t'avoue.
Bah, c'est l'exception du 2 qui est meilleur que le premier.
Ok, d'accord, bah, je regarderai alors.
Moi, il y en a deux vraiment qui m'ont saoulé. Alors, le premier, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est James Wan, un film de James Wan, c'est Dead Silence.
Ah, moi, j'ai pas
quand
eu
je juste. L'ai vu,
oh.
Il était nul. Ouais. Tout ce pataquès pour rien. La BO est géniale, la musique est géniale, mais... Quand je me dis que c'est le même mec qui nous a présenté Saw et qui fait ça, c'est pas possible. Il y a dû avoir une dépression ou un truc comme ça.
C'est vrai que j'ai pas aimé non plus.
Je pourrais pas le démonter, je l'adore, mais après, parce que j'aime beaucoup les films d'horreur avec des poupées ou des pantins maléfiques, c'est un genre que j'aime beaucoup.
Et en parlant de ça, est-ce que tu as vu le film avec Anthony Hopkins qui s'appelle Magic?
Oui, c'est un film que j'aime énormément. Et en plus, il est ressorti en Blu-ray il n'y a pas très très longtemps, alors qu'il était introuvable en France. Et donc maintenant, je trouve qu'il est très bon. Bah, Anthony Hopkins est très bon de base.
Parce que je t'avoue que je ne l'ai pas vu, mais je vis une vidéo qui en parlait là, juste avant de venir, faite par Anthony Pazzona, je crois, qui en parlait. C'est un YouTuber aussi. Et ouais, ça m'a carrément donné envie de... Il disait que c'était le meilleur film de Pantin... pas maléfique mais un peu creepy qu'il ait jamais vu de sa vie, donc ça m'a donné envie.
Et l'autre, c'est Massacre au Palais du Rire sur Netflix. Ne vous jetez pas sur ce film, il est aussi vide qu'un tupperware dans un placard. Vide. Il n'y a rien.
Non, mais je l'ai vu en plus, c'est ça le pire, parce que je regarde énormément de choses. Là dernièrement, j'ai regardé Shark of the Corn, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout. Voilà, c'est des films qu'on devrait même pas lancer.
Et du coup,
c'est de la souffrance.
Mais est-ce que tu as un plaisir coupable?
Eh ben, ça va être décevant pour vous, mais non, parce qu'en fait, j'assume tout ce que je regarde. Donc, du coup, j'ai pas du tout. Voilà, je fais même des vidéos sur les nanars musicaux. Donc, non, en vrai, même les films qui sont pas trop aimés que j'adore, genre, je suis très fan de Super Mario Bros. Qui est considéré comme un nanar ultime. Et non, j'assume tous mes choix et tous mes goûts. Du coup, j'ai pas vraiment de plaisir coupable.
Et est-ce que... et donc, ta chaîne, elle porte le nom d'une punchline de Freddy Krueger, c'est ça, hein?
Oui.
Et est-ce que, du coup, je dois en conclure que c'est pour toi le tueur de slasher le plus emblématique?
Ouais, franchement, je pense. Celui qui m'a fait le plus peur, c'est Michael Myers. Parce que Freddy, si tu vois toute la saga à terme, tu t'en as plus peur. Mais je trouve que c'est le plus sympa, celui qui est le plus pop culture, peut-être le plus marquant, celui qui a les morts les plus inventives, le plus fun, et celui qu'on devrait détester mais qu'on adore. Et c'est vrai que cette punchline dans Freddy 3, j'adore. Et donc voilà, c'était un peu une évidence pour choisir le nom de ma chaîne. Et puis Wes Craven.
Est-ce que tu as déjà créé des petits films d'horreur sur un temps personnel ou pas du tout ?
Pas du tout. C'est vraiment quelque chose analyser. Voilà, monter, j'aime beaucoup aussi. Mais réaliser, c'est vraiment pas du tout mon domaine. Et je pense que, après, faut jamais dire jamais, je pense que ça ne le sera pas. C'est vrai que parmi les membres de la sororité, il y a Demoiselle d'Horreur qui réalise des films et qui le fait très très bien. Mais je pense qu'il faut laisser. Moi, je vais laisser ces choses-là à des gens qui maîtrisent bien mieux que moi.
Demoiselle d'Horreur que j'ai contactée pour également avoir une interview avec elle. Et elle m'a répondu en plus, donc je suis très content. Et est-ce que, du coup, il existe un film que tu n'oses toujours pas regarder ?
Alors, il y a beaucoup de classiques que je n'ose pas regarder. Mais pas parce qu'ils me font peur ou quoi, c'est parce qu'en fait, j'ai tendance à avoir peur d'être déçue par les grands classiques qui sont très publicités. Et c'est vrai qu'il y a des films comme ça, je vais mettre des années à les voir. Par exemple, Les Dents de la Mer, je l'ai découvert il y a 2-3 ans ou un truc comme ça, parce que j'avais extrêmement peur d'être déçue. Et du coup, il y a comme ça des classiques que j'ai toujours pas vus. Alors là, de tête, j'en ai pas. Mais voilà, Les Dents de la Mer faisait partie de ces films que j'ai mis énormément de temps à regarder parce que on m'avait tellement vendu le film que je me suis dit je peux être que déçue en fait. Et ça n'a pas du tout été le cas.
Et du coup, est-ce que tu as été déçue des Dents de la Mer ?
Non, pas du tout, j'ai adoré. J'ai adoré, je l'ai trouvé incroyablement bien écrit. J'ai adoré la BO, que ben, directement après l'avoir vu au cinéma, j'ai acheté la BO, le jeu, le Blu-ray. Enfin voilà, je me suis parée de la panoplie de la fan des Dents de la Mer. J'ai beaucoup aimé le trio d'acteurs. Je pense que le seul reproche que je ferais aux Dents de la Mer, mais c'est un reproche que je fais à Spielberg en général, c'est que je trouve ces persos féminins assez mal écrits. Et souvent, ces persos féminins sont un peu des faire-valoir. C'est-à-dire que là, dans Les Dents de la Mer, son perso féminin, le seul qu'on voit un peu en avant, est en fait juste là pour s'occuper des enfants le temps que les hommes partent à l'aventure. Et elle est juste là pour attendre quai, comme ça, un peu en plante verte. Et c'est souvent le cas des personnages de Spielberg féminins. Et ça, c'est le seul petit bémol, mais ça reste un film exceptionnel que je reverrai toujours avec plaisir.
De quelle série attends-tu une suite et quelle suite aurais-tu aimé ne pas voir ?
Je pense que mon âme d'ado, elle aurait voulu voir une suite à Buffy, mais aujourd'hui, je me dis que c'est très bien que Buffy n'ait pas eu de suite. En série récente, la suite que j'attends le plus, c'est The OA, qui a été annulée après 2 saisons, et c'est une série que je trouve exceptionnelle, qui est vraiment à contre-courant de tout ce qui peut se faire. Et la saison 2, elle se termine de façon que tu as vraiment envie de savoir la suite. Et c'est, je pense que c'est la plus grosse frustration de ma vie qu'elle ait été annulée. Donc là, j'ai vraiment envie de qu'elle soit rachetée, qu'une suite se fasse. J'y crois toujours. Et la série dont j'aurais pas voulu voir de suite, peut-être celle qui aurait dû s'arrêter à temps, je dirais que c'est How I Met Your Mother, qui est une série que j'ai beaucoup aimée lors de sa sortie. Et que j'ai suivi assidûment, et typiquement, elle fait partie des séries qui n'ont pas su s'arrêter à temps, et qui, en fait, ont traîné dans la longueur. Franchement, il y a eu au moins 2 saisons de trop. Et c'était dommage, parce que c'était une série qui avait toujours de quoi dire, qui était très inventive, et qui s'est essoufflée parce qu'elle n'a pas voulu s'arrêter à temps.
Et en saga de films ?
Ah ben, en saga de films... Objectivement, je serais obligée de dire que tous les slashers ont trop eu de suites, mais mon âme de fangirl dira qu'il n'y a jamais assez de slashers, donc je ne suis pas très... Une suite que je rêve de voir, c'est la suite de Behind the Mask, Behind the Mask, c'est un slasher méta que j'aime beaucoup, qui est sorti en 2010 ou quelque chose comme ça, et en fait qui évolue dans un monde où les tueurs de slasher ont réellement existé. Et donc on va suivre comme ça en fun footage un tueur de slasher qui va nous expliquer comment il va tuer ses victimes et comment il s'organise. Et je trouve ce film exceptionnel, et c'est l'un des meilleurs films méta récents, et meilleur slasher méta récent. Et c'est vrai qu'en fait à la fin du film on nous laisse sur une fin ouverte. Et pendant des années, quand je l'ai découvert, déjà, il y avait une rumeur d'une suite. Et en fait, elle n'a jamais été faite parce qu'ils n'ont jamais trouvé les fonds. Il y a eu des crowdfunding qui ont été faits, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il existe des BD autour de ce film, mais il n'y a pas de suite. Et ça, je rêverais de voir une suite.